I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se demande comment mesurer précisément les variations de l'activité cérébrale. Alors, si vous écoutez fréquemment ce podcast, vous savez que les questions au centre des épisodes ont pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Et pour y parvenir, les scientifiques des études que nous relatons ici utilisent différentes méthodes afin de mesurer les variations de l'activité cérébrale. Mais il faut savoir que chacune de ces méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors d'abord attaquons-nous à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Elle a notamment pour avantage d'être non-invasive et facile à mettre en place pour peu que vous n'ayez aucun morceau de métal sur vous ou dans votre organisme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en quelques mots, cette technique utilise essentiellement un aimant de taille importante afin de quantifier les variations du débit sanguin dans certaines régions du cerveau. Et ce n'est donc qu'indirectement, à partir des variations de ce débit sanguin, qu'il en déduit que telle ou telle région du cerveau voit son activité augmenter ou diminuer. Alors l'IRM fonctionnel est une technique très intéressante car elle permet de localiser assez précisément les régions du cerveau où des variations du débit sanguin ont lieu. Mais entre le moment où le cerveau a été stimulé et le moment où le débit sanguin varie, eh bien un laps de temps plus ou moins conséquent peut s'écouler. Ce qui ne fait pas de cette méthode un outil très précis pour quantifier les variations de l'activité cérébrale dans le temps. On dit ainsi que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle a une bonne résolution spatiale, mais une mauvaise résolution temporelle. Ensuite, autre technique fréquemment utilisée, c'est l'électroencéphalographie, qui consiste dans les grandes lignes à devoir placer méthodiquement sur le cuir chevelu une batterie de capteurs afin de mesurer le signal électrique provenant de populations de neurones. Alors là, l'avantage de cette méthode est que le moindre changement peut être enregistré à la milliseconde près. Mais malheureusement, comme le signal récupéré par les capteurs doit, entre autres, traverser les différentes couches de méninges, le liquide cérébrospinal, l'os crânien et la peau avant d'être enregistré, eh bien ce signal est d'une certaine manière distordu, au point de ne pas pouvoir localiser très précisément l'emplacement dans le cerveau d'où il provient. Ainsi, à l'inverse total de l'IRM fonctionnel, on dit que l'électroencéphalographie a une bonne résolution temporelle, mais une mauvaise résolution spatiale. Enfin, pour tenter d'avoir une méthode permettant d'obtenir des informations ayant à la fois une bonne résolution spatiale et une bonne résolution temporelle, des scientifiques ont mis au point l'électrocorticographie, qui consiste à placer non pas des capteurs à la surface du cuir chevelu, mais directement au contact du cortex cérébral. Alors bien sûr, ici, l'inconvénient majeur est que ce type d'examen ne peut se faire que dans le cadre de certaines chirurgies. Par contre, l'avantage essentiel est que cela permet d'acquérir des informations sur le fonctionnement du cerveau d'une précision incroyable. Et c'est justement, sachez-le, la technique qui a été employée par des chercheuses et chercheurs dans une étude pour mieux comprendre le langage et dont il sera question dans le prochain épisode de ce podcast. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer le retour d'un podcast dont les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être, Petit Curieux. C'est un podcast pour les enfants de 7 à 12 ans dans lequel je réponds de manière adaptée à leur âge et de la façon la plus pédagogique possible en une minute à une question par jour, une question que peuvent se poser les enfants, bien sûr. Par exemple, les épisodes suivants sont déjà dispo. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Comment font les avions pour voler? Peut-on vraiment mourir de rire? Ou pourquoi le coq chante le matin? Et puis cette semaine, je traiterai par exemple de pourquoi y a-t-il une trace blanche derrière les avions dans le ciel? Ou encore, les licornes ont-elles vraiment existé? Sur ce podcast, je publie tous les jours à 6h du matin, du lundi au vendredi. Pour l'écouter ou vous abonner, rien de plus simple. Cherchez Petit Curieux, petit avec un S, dans Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou toute autre application de podcast. Ou alors, rendez-vous sur chosesasavoir.com et vous le trouverez dans la liste. Voilà, bonne écoute et à très vite.